EMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est être chrétien dans une famille incroyante. Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Joël répondra à la question « Pourquoi Jésus dit-il qu'il n'est pas venu amener la paix, mais l'épée ?» Et pour terminer, dans la rubrique Culture et Médias, Annabelle va nous parler du magazine Chrétien Lifestyle. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Ça va bien aujourd'hui?
Bien.
Va, ouais. Super. Il fait moins froid? Non,
ça
il
va.
Fait toujours froid.
Il y a quelques semaines, il a fait froid. Mais maintenant, ça va.
Maintenant, ça va mieux.
On s'est habitué.
En fait, c'est ça, c'est ta tolérance au froid qui a
arrête.
Changé.
Yveline veut toujours partir dans le sud.
Oui, je veux toujours partir dans le sud. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des personnes qui sont seules dans leur famille à être chrétiens, et il y en a beaucoup, malheureusement. Et aujourd'hui, si c'est votre cas à la maison, vous êtes le seul de votre famille à être au Seigneur, cette émission vraiment est pour vous. Vous allez découvrir peut-être des clés qui vont vous aider à mieux vivre cette situation. Et nous allons donc commencer tout de suite avec la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée est « Aimer ou convaincre ».
Oui, aimer ou convaincre, c'est en fait le choix qu'on a lorsqu'on est le seul chrétien, le seul croyant dans notre famille. Et on peut souvent se tromper facilement de combat. Au lieu d'aimer sincèrement notre famille, on peut juste essayer de les convaincre. Et moi, lorsque je suis venue au Seigneur, j'étais encore à l'université. Et alors, j'avais rencontré Jésus, c'était merveilleux. Je commençais à en parler à tout le monde, à tous mes amis, à la fac, j'en parlais à ma famille. Et je pense que j'avais vraiment l'air d'une illumination totale, et ça me dérangeait pas spécialement, mais avec du recul je me rends compte que j'ai été extrêmement maladroite et que je pense que dans mon zèle j'ai blessé des gens, il y a des personnes qui se sont peut-être senties jugées, et particulièrement ma famille. Et j'ai cru que d'aimer ma famille qui était incroyante, c'était plutôt de supporter leur façon de vivre, une façon de vivre qui était remplie de péché, remplie de vulgarité, de toutes ces choses. Et d'un seul coup, Sainte Annabelle arrivait. Et Sainte Annabelle avait des choses à dire. Et Sainte Annabelle prêchait la Bible, parlait de Jésus, etc. Mais alors Sainte Annabelle oubliait de demander comment tu allais, est-ce que ça va, et de prendre le temps d'écouter. Et j'aurais aimé comprendre et peut-être même lire ce verset, peut-être que je ne l'avais pas lu à l'époque, dans 1 Pierre 2,12 « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Et là où je voudrais m'attarder, c'est sur votre belle manière d'agir. Et voyez, moi, je voulais vraiment, j'avais des bonnes intentions. Je voulais qu'ils puissent rencontrer Jésus, parce que je me disais, Jésus est leur solution. Et du coup, je faisais que de parler de Jésus quand je pouvais en parler. Et quand je pouvais pas parler de Jésus, je parlais pas, parce que je trouvais que leur sujet de conversation était pas spécialement intéressant ou édifiant, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes se sont pas du tout senti aimé par moi. Moi qui disais avoir rencontré Jésus, moi qui disais avoir été changé, transformé, avoir rencontré celui qui aimait, celui qui était amour, j'arrivais pas à le transmettre aux personnes autour de moi. Je ne transmettais que un peu, je pense, des lois, des il faut pas, ceci. Et finalement, j'avais l'air d'être une personne, au final, pour moi, j'étais super. Non, mais j'étais une bonne chrétienne, je rentrais pas dans les conflits, je rentrais pas dans les discussions un peu bizarres, etc. Je faisais pas de blagues déplacées. Et puis je parlais de Jésus dès que j'en avais l'occasion, comme nous dit la parole, occasion favorable ou non favorable. Donc ouais, je me trouvais assez bonne. Et mais par contre, du point de vue des autres, du point de vue de ma famille, en fait, j'étais une personne qui était plutôt distante, plutôt froide et facile à juger, à donner une parole de remontrance. Ah oui, mais bon, tu sais que la Bible dit que ceci, que cela. Et quelqu'un qui prenait jamais le temps de vraiment de s'asseoir, de passer un coup de fil pour demander est-ce que ça va bien. Et finalement, j'étais très intéressée par mes propres intérêts d'évangéliser plutôt que par les intérêts de ma famille qui avait besoin d'être aimée, qui avait besoin, oui, de rencontrer le Seigneur, mais qui avait besoin de savoir que même si on n'avait pas encore cette même foi, que je les aimais sincèrement et que Dieu les aimait sincèrement, et je manquais énormément de grâce et de miséricorde, et le fait de juste supporter n'était pas suffisant. Et Dieu m'a vraiment montré que je devais les aimer, tout simplement les aimer. Et on lit dans, oui, je vais d'abord lire ça, dans 1 Corinthiens 13, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et lorsqu'on essaye de convaincre notre famille que Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime, mais qu'on n'a pas d'amour réel et sincère pour eux, on est juste cette cymbale qui retentit. Et une cymbale qui retentit, ça casse les pieds. C'est irritant. On a juste envie de vous dire « taisez-vous ». Et si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors j'ai passé du temps à prier pour ma famille, ah Seigneur, sauve-le, sauve-les, sauve-la, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et tant que je n'avais pas cet amour pour eux, je n'arrivais pas à les convaincre. Mais j'ai aussi réalisé que le fait de les convaincre, ce n'était pas mon ministère, ce n'était pas mon appel à moi. On lit dans Jean 16, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et moi, ma mission, c'est d'aimer ma famille. Même si je suis la seule croyante dans ma famille, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, même si j'étais la seule croyante dans ma famille, Dieu me demandait juste d'aimer. Juste de les aimer, de ne pas être une prédicatrice sans cœur, de ne pas être une espèce de robot, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, mais d'être animée d'un amour comme Jésus était animé par un amour et une compassion qui venait tout droit du ciel et qui faisait que oui, Jésus touchait les foules, Jésus faisait des miracles, mais Jésus n'était pas un robot à miracle. Donc je vous encourage à choisir le bon combat et à aimer votre famille.
Oh, amen. Merci Annabelle. Oui, amen. Amen. C'est hyper encourageant ton témoignage parce que on voit qu'on peut mal partir, bien que tu pensais être bien parti.
Ah ouais.
Mais finalement, on peut se rattraper. Puis il y a vraiment une attitude à avoir dans ce type de famille. Et puis, c'est certain que toi, tu vivais pas non plus une persécution excessive comme certains peuvent le vivre dans leur famille où ils sont parfois reniés, déshérités ou humiliés sans arrêt, ils subissent moquerie sur moquerie, etc. Mais c'est vrai que quand on est seul à être au Seigneur dans une famille, c'est difficile, c'est très lourd, c'est épuisant, on a parfois envie de tout abandonner et puis on est sans arrêt en conflit et puis on a tendance, comme tu le dis, à vouloir convaincre, à vouloir... on est un peu sur la défensive en permanence, voilà. En fait, et ça crée une mauvaise image en fait. Et puis il faut pas oublier que quand on est chrétien, on représente Christ. Et souvent, l'image qu'on va donner, surtout au début de notre conversion, où on est vraiment tout feu, tout flamme, ce qui se passe, c'est qu'on donne une mauvaise image. Et on peut voir le verset du jour que tu as cité, qui aujourd'hui est dans 1 Pierre 2, 12. C'est une autre version de ce que tu as lu. Donc comme ça, ça vous donnera à vous, à la maison, une compréhension peut-être différente. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et c'est un verset qui est plein d'espérance parce que ça finit « au jour où il les visitera ». Donc c'est vraiment un verset qui est très encourageant, qui nous montre que si on a la bonne attitude, malgré les insultes, malgré les calomnies, malgré les moqueries, si on a la bonne attitude, le Seigneur viendra à un moment ou un autre les visiter et là ils sauront qu'on avait eu la bonne attitude. Donc nous autour de cette table, c'est vrai que Bon, bah, Joël, Frank, Jonathan, je crois que vous tous, vous êtes nés dans une famille chrétienne, mais je suis sûre que vous auriez quand même des choses à dire aux gens qui nous écoutent pour les encourager.
Sûrement, mais il y a des personnes dans ma famille qui ne sont pas encore sauvées. Et puis, je pense, une façon qu'on peut...
Non, je plaisante.
Mais en fait, pour vraiment aimer ces gens-là, je pense qu'on doit les voir comme Dieu les voit. Et puis aussi, ne pas avoir des attentes irréalistes.
Oui.
Ça, c'est une chose que j'ai dû comprendre moi-même, sans trop décrire la personne. Mais des fois, on a des attentes. On peut dire, ah, mais c'est pas possible que la personne soit de telle façon.
Mm-hmm.
Puis après, comme je parlais avec mon épouse Mathis, j'ai dit, on ne doit pas s'attendre de voir les fruits de l'esprit dans la vie de cette personne, parce qu'elle est perdue. Mm. Elle est comme son père qui est vraiment terrible, le diable. Donc, si on n'a pas d'attente, ça va être plus facile pour nous d'aimer, je pense. Mm-hmm. Parce que des fois, on peut voir une personne dire, elle est égoïste, centrée sur son « je », mais c'est normal.
Mm-hmm.
Et puis, quand on a arrêté de s'attendre à voir une bonne personne, on la reçoit comme elle est,
mm-hmm.
et puis on croit que Dieu va la transformer, et on peut prier pour elle et vraiment l'aimer.
Mm-hmm.
Et puis, je pense pas qu'elle écoute l'émission, donc...
Donc,
ça, c'est vaste.
mais c'est ce que je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que souvent, on a oublié qui on était avant d'être au Seigneur. Ben, toi, t'es connu au Seigneur quand t'étais tout petit, donc t'es éliminé. Mais souvent, on a oublié et on manque de grâce. Mm. On manque de miséricorde parce qu'on a oublié que nous, on était comme eux, en fin de compte.
Qu'est-ce que t'as dit, Annabelle? C'est surtout, tu veux qu'ils connaissent Jésus, mais ils sont supposés le connaître, en fait, au travers de nous et comment on vit. Pas par nos paroles et convaincre, comme t'as dit. C'est complètement... C'est le contraire complet. Ils sont supposés voir Christ en nous et avoir une envie d'avoir ce qu'on a. Ouais. T'es supposé être différent. Et puis, c'est là, comme qu'elle a dit, c'est juste le fait d'être là et d'aimer. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont oublié ça. Juste le fait d'être là et de parler des fois de n'importe quoi, d'être là, une oreille qui va écouter, d'être quelqu'un qui va pouvoir... Ils savent qu'ils peuvent t'appeler s'il y a quelque chose parce que c'est quelqu'un qui va pas parler partout à d'autres. T'es juste un modèle. Et la parole en parle tellement d'être un bon modèle, d'être un exemple pour tous.
Mm-hmm.
Et puis, on doit l'être, mais sans, comme tu dis, quand tu sors la main, tu parles en langue. Tu sais, c'est trop, là. T'as pas dit ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a des niveaux spirituels. Les gens, ils comprennent pas. Ils sont pas sauvés. C'est le fait d'être un modèle, d'être Jésus ici sur Terre. Et ça va donner envie. Jésus attirait des foules de gens à lui. Donc, c'est supposé être comme ça aussi.
Oui.
Et la difficulté avec la famille, c'est qu'ils nous connaissent bien.
Oh, ouais.
Parce que c'est ça, la famille.
Et ils nous ont connus
avant
aussi.
C'est des gens qui connaissent très bien, connaissent le caractère et qui sont avec nous et qui vivent avec nous.
Mm.
Parce que aller dans la rue et puis parler à quelqu'un avec un beau sourire en disant « c'est formidable, Jésus t'aime, on a un beau sourire », on dit « waouh, il a l'air heureux celui-là
».
Mais quand on parle à sa famille avec un beau sourire, si le lendemain on fait la tête, si après on est fâché parce que quelqu'un en a reçu une mauvaise nouvelle, le témoignage est plus difficile avec des gens que l'on fréquente au quotidien.
Oh, oui.
Parce que... Même les jours où ça va mal, même les jours où on est plutôt grincheux, il faut être là pareil. Et en fait, ce qui va faire le témoignage ici, puis je m'adresse peut-être à ceux qui se disent « Ah ben mince, j'étais le grincheux ce matin, ou j'étais de mauvaise humeur. » Bon, le témoignage, c'est justement notre manière de réagir dans ces moments-là. C'est pas parce qu'on a des moments où on a eu une parole un peu forte, où on a mal réagi, où on s'est manqué. Mais quand on vient voir la personne pour s'excuser, pour dire « excuse-moi, là, hier, j'allais pas ou ce matin, puis j'aurais dû t'aider », bon, c'est ça, le témoignage.
Mm.
Le témoignage, c'est pas venir faire des leçons de moralité, de bonne conduite, de dire aux autres « fais pas ceci, fais pas cela », comme tu l'as dit. Le témoignage, c'est vivre.
Mm.
Jésus dit « c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes mes disciples ». Et cet amour, si on doit l'avoir dans l'Église, à plus forte raison, dans la famille, et à plus forte raison pour les gens qui sont les nôtres, les proches. Il est dit encore au niveau des serviteurs que si on n'est pas capable de prendre soin de sa propre famille, comment est-ce qu'on peut prendre soin de l'Église? Alors, il faut prendre soin de votre famille. Donc, on s'adresse ici aux chrétiens dans une famille incroyante. Prends soin de ta famille. Tu dois les aimer. Tu dois leur apporter l'amour de Dieu, être un modèle, être un exemple. Tu n'es pas parfait. Et personne ne l'est. Mais dans tes manquements et dans tes faiblesses, eh bien là, faut montrer le caractère, ta bonne volonté, être capable de s'excuser, être capable de demander pardon, de corriger. Et Et puis, comme l'a dit Annabelle aussi, ben, s'intéresser à l'autre. Mm-hmm. Et dire, bon, on n'est pas là juste pour avoir un converti dans notre église, non, pour augmenter le nombre de personnes dans cette église bizarre, hein, diront certains. On est là juste parce qu'on t'aime et qu'on veut le mieux pour toi.
Mm-hmm. Oui, je crois qu'il y a une attitude aussi qui fatigue au plus gros point les incroyants. C'est quand on a cette attitude de s'offusquer en fait, pour la moindre chose. Comme tu le dis, on s'attend peut-être à une attitude de la part des membres de notre famille. Et il y a un gros mot, il y a une façon de vivre, il y a des façons de faire, il y a des choses qui sont faites. Et puis, aller s'offusquer sans arrêt... Alors qu'au fond, on vivait de la même façon avant. Et puis eux, l'attitude qu'ils ont, c'est juste l'attitude de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça n'a pas d'importance en réalité. Tout ce qui est fait dans ce moment-là de leur vie, c'est juste parce qu'ils sont pas sauvés, ils connaissent pas le Seigneur. Et puis cette façon d'aller s'offusquer pour un oui ou pour un non, pour justement s'essayer de se mettre un peu une auréole sur la tête, ça fait qu'on se place un peu au-dessus d'eux. Mmh. Et puis, c'est humiliant, en fait. Pour eux, c'est humiliant. Et puis, ça met une distance, en fait. Et je crois que vraiment, l'enjeu, quand on est chrétien dans une famille incroyante, c'est de réduire cette distance. C'est certain, il y a un fossé entre eux et les autres, forcément. Mais le but, c'est de réduire au maximum cette distance pour qu'il y ait une proximité, pour qu'on soit une oreille, comme vous avez pu le dire, pour qu'on puisse vraiment leur apporter le soutien dont ils ont besoin, etc. Et puis, avant qu'on...
Oui. Et peut-être pour être sûr que personne ne te comprenne de travers, ça ne veut pas dire qu'il faut fumer un pétard avec eux, ou boire toute la nuit avec eux. Ouf, non, il y a quand même certaines limites, mais on n'est pas là pour accuser, on est là
exactement.
C'est une chose importante, comme tu as mentionné, Annabelle, avant, tu ne l'as pas comme entré dans des sujets, puis je pense que ça, c'est bien parce que des fois, les chrétiens veulent débattre avec leurs proches et la Bible nous dit l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont spirituellement discernées. Donc, ça ne vaut pas la peine d'entrer dans des débats avec nos proches et dire « mais non, c'est comme ça qu'on devrait vivre ». Non, parce que ces gens-là ne sont pas sauvés.
C'est
donc, ils ne peuvent pas comprendre même les choses qu'on peut comprendre.
Oui.
Donc, je pense qu'il faut vraiment aimer puis être cette personne disponible. Hein. La personne vit une difficulté, elle sait qu'elle ne sera pas jugée, elle va être reçue. Et puis, je pense que c'est vraiment là où le Saint-Esprit aussi peut ouvrir une porte pour qu'on puisse semer la bonne nouvelle quand c'est un moment propice aussi. Là.
Et pour certains, c'est pas juste de gagner sa famille à Christ qui est un défi, c'est de survivre à Christ dans la famille, parce qu'il y a beaucoup de persécutions. Et puis, j'aimerais aussi qu'on puisse s'adresser à ces personnes-là, parce que pour eux, peut-être amener leur famille à Christ, c'est déjà un haut niveau. Ils s'attendraient juste à ce qu'on les laisse tranquilles et au moins pouvoir vivre leur foi. Je pense à des chrétiens qui sont dans une famille musulmane ou catholique, pour certains qui vont être vraiment persécutés lorsqu'ils vont passer du côté évangélique, si je peux le dire comme ça. Enfin, il y a différents endroits où vraiment simplement des familles incroyantes qui vont vraiment persécuter, se moquer, insulter. Ça peut être très très difficile d'être seul dans une famille comme ça.
Communistes, familles athées, il n'y a pas que...
Il y en a plein, oui, j'ai pas tout cité, mais qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces gens-là? Quelqu'un a envie de parler?
La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes et en tant que croyant, une fois qu'on a Jésus-Christ, c'est vraiment un devoir qu'on a que de garder notre cœur et de garder notre cœur aussi par rapport aux persécutions, aux attaques, aux offenses, parce qu'on peut vite devenir découragé, amer découragé ou amer. Et c'est de puiser dans cet amour surnaturel qu'on a reçu pour pouvoir supporter ces offenses, pour pouvoir supporter la persécution, et en nous rappelant que Jésus a été persécuté. Il a dit, j'ai été persécuté, le monde vous hait parce que vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et de se dire que, il y a plusieurs, il y en a, c'est vrai que c'est facile peut-être à dire dit comme ça, mais vraiment il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui vivent leur foi de façon extrême, de façon cachée, sont persécutés par des gouvernements, persécutés par la famille, comme tu disais Jonathan, c'est des gens qui nous connaissent bien, donc à la fois ça fait très mal. Parce que ça te faisait bien rire avant, toi avant tu étais le premier à vouloir faire ci et ça, et c'est de pas tomber dans des disputes dispute de mots qui vont être vaines, mais de garder notre cœur et de vraiment garder ce focus sur l'amour, de dire l'amour couvre une multitude de fautes. Et je crois que c'est quelque chose qui va nous porter et qui va faire en sorte qu'on va garder notre cœur quoi qu'il arrive.
Et garder la foi.
Oui, et garder la foi.
Et arriver à mettre les choses en perspective, quoi, et pas être juste bloqué là sur une mauvaise attitude. Ouais. Mais bien souvent, la personne qui blesse, c'est quelqu'un qui souffre. Hein, quelqu'un qui est dans un mal-être, qui souffre, qui va mal, va être offensant et va blesser les autres. Mmh. Et quand on réalise ça, bah que les personnes de votre famille qui vous blessent, qui vous font souffrir, qui vous persécutent peut-être même, bah, ce sont des gens qui sont malheureux, qui n'ont pas l'amour de Dieu, qui ne connaissent pas la joie, la paix que vous avez, qui des fois sont jaloux d'une paix, d'une joie qu'on peut avoir. Et quand on réalise ces choses, bah, on peut avoir de la compassion. Et ça permet de supporter.
Oui.
Hein, des fois, si on veut prendre soin de quelqu'un qui souffre, ben, on va se faire griffer, mais on va le faire avec compassion pour amener du bienfait et puis de l'amour quoi, pour ces gens-là.
Si, moi, j'ai une question pour toi, Annabelle.
Ah, oh.
Si les gens qui sont à la maison, ils vivent peut-être ce que tu as vécu, toi, tu as dit au début que tu as été peut-être maladroite dans ce que tu as fait. J'imagine que pour toi, la prière, ça a joué un grand rôle pour pouvoir en voir être sauvé dans ta famille. Ou je ne sais pas comment tu as agi pour peut-être te rattraper dans des choses que tu aurais pu mal faire.
Il y a une partie de ma famille qui s'est convertie. Vraiment, je sais exactement quand, parce qu'on a eu des temps de prière avec Jérémy. Et je savais que c'était le moment. Et quelques jours après, ils ont été sauvés. Mais tu as une autre partie de ma famille. Dieu m'a parlé, et Dieu m'a parlé dans un rêve. Et Dieu m'a montré à quel point j'étais dure et... J'étais dure, en fait. Et dans mon rêve, je voyais des gens qui étaient émus de compassion. Et moi, je me voyais dans le rêve, les bras croisés. Ouais, bah, c'est bon, je suis au courant. C'est comme c'est Jésus la solution. Si tu veux pas être Jésus comme solution, bah, il n'y a plus rien à faire pour toi. Vraiment. Et en fait, ça a totalement changé ma façon de voir. Et on a reçu un cœur de chair. Notre cœur de pierre a été remplacé par un cœur de chair pour aimer. C'est pour ça que je disais, je crois vraiment que l'amour, c'est, je crois, la Bible nous le dit, c'est le lien de la perfection. C'est le seul lien qui va faire en sorte qu'on va pouvoir être unis, qu'on va prier de tout notre cœur, sincèrement. Et qu'on va pouvoir aller au-delà de la persécution, des moqueries, des accusations. Mais voilà, Dieu m'a parlé, Dieu m'a reprise.
C'est pas ça que je voulais savoir, mais c'était plus comme aider les gens. Maintenant, c'est bon, Dieu travaille de toutes sortes de façons, fou. Des fois, des songes, des choses comme ça, c'est puissant.
Aussi, admettons, dans un cas comme le tien, une personne peut se repentir aussi auprès de la famille. Hein, si on a été dur, si on se repent et on dit « je te demande pardon de la façon que j'ai pu agir », je pense aussi, ça peut toucher la personne aussi et puis changer même la relation.
Exactement, Et pour continuer dans notre thème, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Joël, c'est toi qui vas répondre à la question aujourd'hui de Keren d'Angola. Nous a demandé pourquoi Jésus dit-il qu'il n'est pas venu amener la paix, mais l'épée.
C'est une très bonne question parce qu'en lisant la Bible, on peut se dire, mais est-ce que ça fait du sens? Parce que dans Ésaïe 9:5, pourtant, nous lisons, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera, entre autres, prince de la paix. Donc, le prince de la paix a déclaré « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Très bonne question. Est-ce que Jésus parlait d'une épée littérale? Et puis, je vais vous dire tout de suite, non. Moi, je ne crois pas. Dans Hébreux 4, 12, en fait, on peut retrouver un texte, on retrouve le texte qui nous parle ici de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ce texte-là, ici, nous présente la Bible comme étant, vivante et efficace, mais plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Donc, on peut voir une image ici de la parole de Dieu qui pourrait être comme une épée. Et je crois que ce texte-là que Jésus, en tout cas, ce que Jésus a dit, nous parle plutôt d'une division qui arrivait, en fait, pour diviser. Est-ce que c'était son but? Donc, j'arrive sur la terre pour diviser. Mais en fait, je crois que le Seigneur Jésus nous disait plutôt, voici le fruit de la vérité, en fait. Le fruit de cette vérité va apporter une division, même si ce n'était pas son cœur.
C'est ça.
Je pense, ultimement, le prince de la paix veut vraiment avoir la paix sur la terre, parce que si on étudie l'Apocalypse, par exemple, on retrouve dans le millénium, bien, c'est la paix sur la terre. Oui. Mais à ce moment précis-là, est-ce que c'était son but? Non, son but, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Il était lui-même la bonne nouvelle. Si on reprend le verset dans son contexte, on va pouvoir plus comprendre le sens. Et c'est toujours le cas. Si on prend juste un verset hors contexte, on peut faire dire à la parole de Dieu toutes sortes de choses. Oh, oui. Des fois, même les gens ont pris ce texte-là pour dire, bien, le chrétien devrait aller à la guerre. Mm-hmm. Et puis, ça, c'est un autre débat. Mais on ne peut pas prendre ce texte-là pour dire, c'est ça que Jésus prêchait. Il ne prêchait pas la guerre, mais il nous révélait une chose très importante qu'on peut revoir. On peut voir dans Matthieu 10, verset 34 jusqu'à 37. Il est écrit, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Car, au verset 35, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. » Et le texte, en fait, ici, Jésus citait Michée 7:6. Mm. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc, la vérité de la parole de Dieu impliquait une division qui pouvait venir dans une famille. Est-ce que c'est ça que Jésus est venu faire? « Je veux diviser vos familles, vous détruire par l'intérêt. » Non. Jésus est en train de dire, en fait, si on reçoit la vérité de la parole de Dieu, vous savez, la parole et la vérité va faire une division entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Donc, si quelqu'un dit, moi, j'accepte le Seigneur Jésus comme le sauveur de ma vie, bien, si votre famille refuse à ce moment-là de suivre le Seigneur, bien, vous allez être dans un autre camp. Il va y avoir une division. Mais ultimement, le prince de la paix veut que tous soient sauvés et qu'on parvienne tous au salut. En gros, ce texte-là qu'on peut lire, si on le met dans son contexte, c'est très simple. En fait, Jésus est venu, nous donner la paix, mais cette paix-là commence dans notre cœur personnellement. Et à ce moment-là, ce n'était pas le temps où il venait instaurer la paix mondiale, c'est comme ça. On verra un jour. Mm-hmm. À ce moment-là, il venait plutôt livrer sa vie sur la croix pour qu'on soit sauvés. Et puis, on savait que, en fait, Jésus est en train de dire, il est en train de révéler, en fait, ce qui était pour se produire, sans que ce soit son but ultime. Mm-hmm. Donc, c'est très, très simple comme explication. Et puis, c'est ça, la parole peut avoir comme effet la division entre le bien et le mal. Et puis, je crois ici, c'était plutôt la réalité. Quand Jésus a parlé, c'était la réalité du phénomène du salut qui divise.
C'est ça.
Mais, comme nous prions, nous pouvons croire aussi que notre famille sera sauvée. Mm-hmm. On peut relâcher notre foi. Et là, on peut voir aussi, nous, on a été comme séparés du péché, mais on peut aussi croire que notre famille peut aussi vivre le miracle de la nouvelle naissance, être séparée du péché, séparée de la mort, recevoir la vie éternelle, passer de la mort à la vie, entrer dans la gloire. On peut croire pour ces choses-là.
Amen.
Donc, voilà, je pense que...
C'est une très bonne réponse, c'est très clair. Moi, je me souviens que ce verset m'avait un peu perturbée au début de ma vie chrétienne. Je l'avais lu, je ne comprenais pas trop. Bon, après, je l'ai vécu. Et j'ai mieux compris ce que ça signifiait. J'ai compris qu'effectivement, ce n'était pas la volonté de Jésus, c'était pas ça qu'il voulait apporter, mais que bon, c'était une des conséquences du salut en fait du fait que d'autres n'étaient pas encore sauvés. Merci pour ta réponse. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique culture et médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes le magazine Chrétien Lifestyle, qui peut être un bon moyen pour justement ceux qui sont seuls dans leur famille de pouvoir aussi avoir des ressources chrétiennes disponibles et puis même d'appartenir à un genre de communauté pour se sentir un petit peu moins seul, en fait.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est un bon conseil, d'ailleurs, lorsqu'on est seul dans une famille incroyante, c'est de pouvoir avoir une église, avoir une communauté autour de nous, puis d'utiliser les outils. Et Chrétien Lifestyle, qui se définit même comme étant un magazine en ligne dédié au lifestyle, au style de vie. Pasteur Joël comprend pas très bien l'anglais. Et à la foi chrétienne, il traite de toutes les thématiques de la vie quotidienne en abordant un point de vue chrétien. Et je trouve que c'est vraiment très pertinent. Oui. Et quand je repense à notre sujet, bah, c'est encourageant parce que il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont abordées. Alors là, on voit leur magazine qui sont sortis au mois de janvier et au mois de juin, c'est ça, 2017. Juin, et le magazine a 2 ans, en fait. Ça fait 2 ans, là, en janvier, ils
ont fêté leurs
2 ans.
Donc c'est un magazine papier?
Non, c'est un magazine en ligne.
Ok.
Est un magazine en ligne, oui, dédié au lifestyle.
C'était au cas où les gens n'avaient pas bien écouté.
Donc
le
là,
début.
on voit le magazine de l'été, maintenir le cap de la sanctification durant l'été. Excellent thème. Mm-hmm. Comment gérer son budget. Donc, c'est vraiment des thèmes, il y a un petit peu de tout. Et c'est pour ça, lifestyle, ça touche à tous les domaines de la vie. Et quand on est un peu tout seul, on n'a pas forcément d'enseignement, on commence dans la vie chrétienne ou même après, on a besoin d'avoir toutes ces petites astuces pour savoir quoi faire. C'est la première fois qu'on passe des vacances en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va plus en boîte de nuit. Donc voilà, ça parle de tout ça. On va à l'église. Bah voilà, on le sait pas forcément.
Midi et soir.
Donc chrétien lifestyle, c'est aussi sa page Facebook, et je pense qu'en fait beaucoup de gens connaissent plus en tant que cette page communauté Facebook, que tu disais sur internet, que comme un magazine finalement, mais c'est avant tout un magazine, d'accord, je veux pas qu'il m'en veuille. Et sur Facebook vous êtes 132 800 et quelques à suivre Chrétien Lifestyle.
J'en fais partie.
Et on voit sur la page Facebook de nombreuses publications, des versets, des citations. On peut voir après les versets peut-être. Voilà, ne crains rien car je suis avec toi. Avant que moi, je te répondrai. C'est tout le temps avec des beaux designs, des belles photos en plus. Là, on a des citations. Et le soleil vient de se lever. Encore une belle journée avec Jésus. Certains auront reconnu le petit clin d'œil. Et plus vieux.
Et même moi, je l'ai reconnu.
Que la prière soit ton premier choix, pas ton dernier recours. C'est vraiment des citations pertinentes, encourageantes, faciles à partager. Et puis là aussi, du coup, on peut mettre ça sur son mur Facebook. Et puis, on n'est pas trop intrusif, on n'est pas désagréable. Mmh. Et c'est vraiment des bons conseils. Et aussi, Chrétien Lifestyle, dernièrement, a commencé à organiser des ateliers. Des ateliers où quelques personnes se réunissent ensemble. Donc là, on voit atelier chrétien. Donc vous avez toutes les infos sur atelierchrétien.com et vous voyez que celui de fin d'année 2017 était complet.
En fait, je pense qu'un peu tous leurs ateliers qu'ils font finissent complets.
Bah
fait.
Ouais,
ça marche vraiment bien.
Oui, ouais, c'est sûr. Ils disent un moment entre chrétiens, des activités collaboratives, des orateurs d'exception. Je n'ai pas été invitée, je comprends pas. je rigole.
C'est sûr que si les 130 000 viennent à l'atelier, ça fait du monde.
Je suis pas sûre qu'il y en ait 130 000.
Je prévois pas de dire ces choses-là, d'accord?
C'est
spontané.
Une ambiance cosy et chaleureuse, un rendez-vous près de chez vous. Il y a eu dans plusieurs villes de France, Paris, Lyon, Nice, Marseille, il me semble aussi. Et en plus, vous ne repartez pas les mains vides. Tout au long de l'atelier, un buffet est mis à disposition. Wow. Il y a un sac, un petit paquet cadeau à la sortie. Donc voilà. Puis aussi, il y a des petites vidéos drôles, en tout cas que moi je trouve drôles, sur Chrétien Lifestyle. On veut peut-être en regarder la petite vidéo que j'ai vue sur leur page Facebook. Maman m'a beaucoup fait rire.
C'est la meilleure vidéo qu'Annabelle a trouvée. Hein, bon. Annabelle fait ses sélections.
Explique la vidéo, Annabelle.
Bah, y a rien à expliquer.
C'est tout.
Assez clair. Mais oui.
C'est clair.
C'est bien. En gros, quand tu veux résister à la volonté de Dieu, t'es comme ces gens qui essayent de faire rentrer leur canapé gigantesque dans leur minuscule. Voilà.
Je suis sûre que ça va parler à quelqu'un. Quelqu'un va avoir la révélation.
Pas toi. Non. Il y a quelqu'un d'autre.
Donc, Chrétien Lifestyle, c'est une équipe de jeunes chrétiens, tous âgés de la vingtaine, vivant dans la région parisienne. Et la fondatrice, qui s'appelle Judith, dit qu'en fait, elle a commencé ça un peu comme une activité extrascolaire. Et c'était un peu entre le blog et le webzine. Je pensais jamais dire ce genre de mot un jour. Et puis finalement, vu l'engouement, vu le succès, ça a pris de l'ampleur. Donc aujourd'hui, Chrétien Lifestyle, c'est donc un magazine, on l'a vu. D'ailleurs, le magazine est disponible sur abo.chrétienlifestyle.com. Et là, tous les magazines déjà en ligne sont disponibles à l'achat à 1,50€. Donc 1,50€,
c'est symbolique en fait.
Ouais, voilà, vraiment. Donc voilà un site éditorial qui est mis à jour quotidiennement, donc chrétienlifestyle.com, le magazine numérique comme on en a parlé, une grande communauté fraternelle. Puisque maintenant, en plus, il y a ces ateliers avec où on peut se rencontrer vraiment en personne. Et aussi un média anglophone depuis septembre 2017. Alors, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup leur site. Je trouve ça vraiment super de partager là, tout ce qu'ils partagent, que ce soit les vidéos, les petites vidéos drôles. Drôle, bah, c'est drôle. Ça parle, c'est juste 30 secondes et puis ça parle bien. Leurs articles aussi, vraiment leurs articles sont très pertinents, oui, sur l'éducation, la famille, l'argent,
le couple.
Ouais, puis il y a des actus aussi, les derniers films chrétiens qui sortent. Ça regroupe énormément de sujets et honnêtement, j'ai jamais rien vu de mauvais. À chaque fois, je me dis, ah, c'est vraiment bien. Je lis un article, à chaque fois, je me dis, ah, waouh, c'était super, j'étais super bénie. Et en général, c'est assez court, assez concis. Ça s'adresse à un petit peu à tout le monde. Bah, j'avoue, j'étais pas étonnée de voir que c'était une équipe dans la vingtaine.
Oui, tu vois que ça s'adresse à
un public quand même jeune, assez jeune, mais tu peux quand même y aller.
merci de ne pas l'avoir dit.
Okay. Les grands-parents peuvent y aller aussi.
Voilà, c'est ça. Si c'est toi qui avais été à côté de moi, ça aurait été à toi.
Mais lui, il n'est pas le grand-père encore.
C'est un compliment.
Donc voilà, chrétienlifestyle.com. Il y a la page Facebook, page Instagram, le magazine à commander. Donc super ressource. Yveline aime, donc tout le monde aime.
Ben oui. Validé par Yveline. C'est bon. Non, mais c'est vrai, j'aime beaucoup leurs articles, sincèrement. Comme toi, quand je les lis, je suis souvent... parce que, voilà, on l'a souvent dit dans cette émission, il y a de tout sur Internet et sur Facebook. Et puis, parfois, je lis des choses ou je regarde des vidéos, puis je suis là, non. C'est-à-dire, on voit que c'est pas forcément un accord avec la parole de Dieu, où il y a des fois des petits courants un peu bizarres qui viennent s'immiscer. Et je trouve que dans Chrétien Lifestyle, vraiment, leurs articles sont vraiment toujours très, très bien rédigé déjà, et puis vraiment le contenu est vraiment biblique, c'est toujours un fondement biblique, il y a des versets à l'appui, et ça je trouve que c'est quand même hyper important pour un magazine chrétien, c'est un peu la base quand même. Donc,
ouais, c'est ça, ils se sont pas perdus dans leur ligne éditoriale. C'est tous les sujets de la vie quotidienne mais abordés avec un point de vue chrétien, et on ressort à chaque fois qu'on lit un article avec vraiment une pensée claire de ce qui a été communiqué de façon biblique et qui va pouvoir être applicable tout de suite dans notre vie.
Exactement. Oui. Merci Annabelle pour ton travail de recherche approfondi et ta super vidéo.
Oh, ça va, elle était super.
Oh, je l'avais déjà vu.
On va voir un témoignage, tu vas voir.
Un témoignage de quelqu'un qui a une révélation.
Tout à fait.
Peut-être si on avait mis le canapé dans l'autre sens, ça rentrait.
Ah, ça rentrait pas mal. Envoyez un témoignage, sauvez-moi, s'il vous plaît.
L'illustration ne fonctionne plus, Jonathan. Le canapé est censé rentrer dans la voiture, il faut comprendre.
Ça rentre pas, ça rentre pas.
C'était une métaphore.
Seul moyen, c'est de le mettre sur le toit.
Ah. Allez,
on passe à autre chose. En tout cas, je vous rappelle donc le thème principal de cette émission. Nous nous adressions à vous qui êtes peut-être seuls ou en tout cas peu nombreux chrétiens dans votre famille. Vraiment, j'espère que cette émission a pu vous encourager et puis vous donner surtout des pistes pour pouvoir briller dans votre famille, que ce soit avec votre époux, votre épouse, vos enfants ou vos parents, frères et sœurs, etc. Famille plus élargie. On sait comment ça peut être difficile, même si la plupart, on a quand même une famille assez chrétienne, on a quand même tous des incroyants qui gravitent autour de nous et on sait à quel point ça peut être compliqué. Donc on veut vraiment vous encourager, que vous soyez fortifiés là où vous êtes. Ne renoncez surtout pas à votre foi. Si vous êtes persécuté, si vous êtes calomnié, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Jésus nous l'a dit, hein, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc je veux vraiment vous encourager, ne baissez pas les bras et même si c'est pas facile, sachez que vous n'êtes pas seul. Non seulement vous avez des frères et sœurs partout autour de vous sur la terre, mais surtout le Saint-Esprit est avec vous en tout temps et vous pouvez compter sur lui, vous pouvez compter sur sa sagesse, sur le discernement qu'il peut vous donner, sur l'amour qu'il dépose en vous, vraiment les clés qu'Annabelle nous a communiquées dans la pensée du jour. Vraiment, je vous invite à vous en saisir. L'amour sera vraiment la clé qui vous permettra d'être une lumière dans votre famille. Donc soyez vraiment encouragés et fortifiés. Merci à vous tous pour cette super émission et nous allons nous retrouver demain. Demain, nous allons parler de comment être délivré de l'angoisse. Et oui, on peut être chrétien et pourtant avoir des angoisses terribles, des peurs terribles. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » et d'un témoignage dont Dieu a délivré de l'angoisse. Voilà, on se retrouve donc demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.